Bienvenue sur My Marketing Podcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Jacobi. On est entrepreneurs et spécialistes en marketing chez My Marketing Experience depuis plus de 10 ans. Et on est sœurs depuis toujours.
Après avoir accompagné des centaines de dirigeantes et de dirigeants, on sait que les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui investissent dans le marketing et pas l'inverse. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre le marketing accessible, pragmatique et fun.
Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit.
Ici, au travers d'épisodes en solo et avec des invités, vous trouverez les méthodes, les outils et les meilleures pratiques marketing pour prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, augmenter vos performances et votre niveau de kiff. Et de temps en temps, on propose des épisodes en duo pour vous partager sans filtre notre parcours d'entrepreneur.
Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et bonne écoute.
Votre site internet WordPress chouchouté, surveillé et au meilleur de ses performances toute l'année? Avec le service de maintenance WordPress de Maje, votre site vitrine ou e-commerce est protégé et techniquement optimisé 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Détection des failles de sécurité, sauvegarde quotidienne, monitoring du site et remise en ligne en cas de problème, mise à jour des extensions WordPress, l'équipe de Maje assure la maintenance de votre site de A à Z. Adieu les mises à jour qui font planter le site, plus d'emails de clients pour prévenir que le site est inaccessible. Avec le service de maintenance clé en main de Maje, gagnez des heures de travail, évitez les opportunités perdues et les prises de tête sur votre site internet. Chez My Marketing Experience, Maje gère la maintenance technique de notre site et de ceux de nos clients et on apprécie particulièrement leur réactivité et leurs conseils avisés. Pour tout savoir sur les offres de maintenance et d'assistance WordPress de Maje, rendez-vous sur maje.mc/mmx/maintenance-wordpress ou cliquez sur le lien dans la description. Pour accompagner des entreprises en B2B depuis maintenant plus de 10 ans, il y a des erreurs marketing qu'on voit revenir très souvent. Et c'est le sujet d'un épisode pour lequel Laurie a été invitée de l'excellent podcast Astuces de com animé par Natalia Monfort. Dans cet épisode, Laurie livre un véritable auto-diagnostic de votre stratégie marketing. Quelles questions se poser, quelles erreurs éviter et quelles actions concrètes vous pouvez mettre en place, vous repartez avec le plein de conseils. L'objectif de cet épisode, vous aider à mieux vendre. Alors ce qu'il me reste à faire, c'est de vous souhaiter une excellente écoute.
Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Astuces de com. Je suis Natalia Monfort, fondatrice de l'agence de communication Optimizency à Bordeaux et formatrice en réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous allez trouver dans les podcasts Astuces de com? Tout simplement, comme son nom l'indique, des conseils, des trucs et astuces pour apprendre à gérer votre communication au quotidien. Donc bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Astuces de com. Et aujourd'hui, je suis super contente de recevoir quelqu'un que j'aime beaucoup au micro, donc Laurie, que j'ai connue via son podcast, le podcast My Marketing Podcast, que j'adore. Et suite à ça, donc on se suit sur LinkedIn. Salut Laurie.
Salut Natalia. Écoute, je suis ravie d'être ici aujourd'hui sur Astuces de com, que j'apprécie beaucoup. Et puis, on va parler d'un sujet que j'apprécie beaucoup aussi, puisqu'on va parler de marketing.
Exactement, tu t'es pas trompée, c'est bien le poste, le sujet du jour, on est au bon endroit. Donc Laurie, moi je te présente rapidement, mais le but c'est qu'ensuite toi tu puisses nous donner plus d'infos croustillantes sur toi. Donc tu co-animes le podcast avec ta sœur jumelle.
Absolument, je co-anime le My Marketing Podcast avec Sandy, qui est ma sœur, et avec qui j'ai également une agence de conseil et de services en marketing B2B qui s'appelle My Marketing Experience. Donc tu vois, My Marketing Experience, My Marketing Podcast. On n'est pas allé chercher très loin.
C'est pratique. Effectivement, c'est pratique. Moi, j'avais noté, c'est la spécialiste du marketing B2B, mais pas que. Alors justement, est-ce que tu veux nous en dire plus?
Écoute, nous, on a créé cette agence il y a un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai l'impression de passer pour un dinosaure en disant ça.
Oui, ça commence à faire.
Ça commence à faire, oui. Mais on ne s'en lasse pas parce que ce qui est génial avec le marketing, comme dans beaucoup de métiers, c'est que ça évolue constamment. c'est qu'il y a des nouvelles techniques qui arrivent, des tendances aussi. Mais le but, la finalité, c'est toujours la même, c'est d'aider les entreprises à vendre et je dirais même à mieux vendre. Pas forcément toujours sous l'angle du chiffre d'affaires, même si bien sûr ça compte, mais aussi sous l'angle de leurs valeurs, de comment j'adapte aussi un business au service de ma vie. Donc ça, c'est très intéressant et puis forcément, on s'adapte aux dirigeants avec qui on échange.
Mais top. Et est-ce que tu sais ce que j'aime le plus dans ton approche ou pas? Je vais te le faire découvrir.
Bah écoute, je suis curieuse, dis-le-moi.
Parce que quand j'ai regardé un peu plus en détail ce que tu fais donc avec ta sœur, j'ai adoré votre accroche, ce qui est rendre accessible le marketing. Parce qu'en fait, moi, mon approche à moi, c'est de rendre accessible la communication. Et je parle souvent comme ça auprès de mes clients. Et du coup, je me suis dit, mais c'est génial. En fait, on a exactement la même manière de voir les choses. Donc, je suis contente.
Écoute, ça me fait plaisir. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour nous depuis le début et c'est vraiment, ça a toujours été notre cheval de bataille. C'était de se dire qu'on voulait que les plus petites entreprises puissent avoir les mêmes armes, entre guillemets, tu vois, que les plus grosses et que le marketing, c'était pas réservé qu'aux grosses boîtes, que c'était pas un nice to have et que finalement, on voulait s'adresser aux TPE, aux PME, aux indépendants pour leur offrir les mêmes chances, les mêmes outils, si ce n'est parfois peut-être de les adapter et de les redimensionner. Mais de leur rendre accessibles tous ces outils et ces techniques pour leur permettre, eux aussi, de faire briller leur entreprise.
Tu as raison, tout le monde mérite de pouvoir
absolument faire briller son entreprise.
Donc, vous l'avez compris, on va vous parler de marketing. Et d'ailleurs, on a même choisi un sujet que tu m'as soufflé, Laurie. Donc, 5 plus une raison pour lesquelles votre marketing ne fonctionne pas. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous dire comment toi, tu expliques la définition du marketing pour les gens qui nous suivent et qui ne sont pas très au fait? Comment toi, tu définis ça?
C'est une super question. Je me souviens
avoir essayé de... là.
Ouais, je me souviens avoir essayé de l'expliquer à ma grand-mère, tu vois. Pour moi, le marketing, ce sont toutes les techniques et les outils qui vont nous permettre de développer les ventes. Donc, de mieux vendre, de rendre notre offre déjà plus appétissante aux yeux de nos clients. Et in fine, c'est vraiment de pouvoir développer les ventes et au-delà des ventes, donc le chiffre d'affaires. Donc, ça va être toutes ces techniques et ces outils. Et la communication, dont je sais que tu es une experte, fait partie des outils du marketing. Donc, c'est drôle parce que, tu vois, à l'époque, quand on a lancé notre site internet et notre blog, je me souviens que le tout premier article que j'ai rédigé pour le blog, c'était quelle est la différence entre marketing et communication. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire l'amalgame, même s'il y a quand même une très forte corrélation entre les deux. La communication, c'est là où on décline en fait la partie stratégique du marketing.
Donc, oui, je suis d'accord. C'est important de le préciser parce que j'ai souvent, moi, dans mon quotidien, des personnes qui n'arrivent pas à faire la différence entre le marketing et la communication. Donc, c'est important, là, d'en parler. Et comme tu dis, en fait, pour moi, la com, c'est vraiment une partie, finalement, du marketing. Et c'est pour ça qu'on est vraiment très, très complémentaires, toi et moi.
C'est une très grosse partie. Hein. C'est clair que, comme tu dis, c'est très complémentaire. Mais il y a quand même une belle dissociation. Et donc, voilà, j'espère que c'est plus clair pour tes auditeurs aujourd'hui.
J'en suis sûre. Sinon, n'hésitez pas, si vous nous écoutez, que vous n'avez pas compris, vous nous faites un message, on trouvera une manière de vous faire comprendre. Ça, mais je pense que ça va. Tu expliques très, très bien. Donc, est-ce que tu es prête pour nous partager tes 5 plus une raison pour lesquelles le marketing ne fonctionne pas en général?
À fond.
Alors, c'est parti. Je te laisse démarrer. Selon toi, quelle est la première erreur?
Alors, je voudrais juste en introduction dire que souvent, on dit « mon marketing ne fonctionne pas », mais on a du mal à expliquer pourquoi. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui, comme n'importe quel problème, quand on ne connaît pas d'où vient la source du problème, c'est quand même un petit peu compliqué de le régler. Donc moi, ce que je vais proposer aujourd'hui à tes auditeurs, Natalia, c'est des pistes de réflexion pour essayer d'appréhender pourquoi ils ont le sentiment que ce qu'ils mettent en place au niveau marketing ne fonctionne pas. Donc en fait, c'est comme, j'aime bien penser que ça pourrait leur servir comme pour faire un mini audit de leur marketing. Si tu es d'accord.
Bien sûr, avec grand plaisir. Je suis sûre que tout le monde est d'accord. De toute façon, ils peuvent rien dire, ils peuvent pas parler. Donc,
ils peuvent te laisser des mauvais commentaires quand même. Mais non, je pense pas quand même. Je pense que ça leur sera utile.
Mais en tout cas, ça me va très bien, effectivement, d'envisager là ce que tu vas nous dire plutôt comme une piste de réflexion pour pouvoir faire un mini diagnostic.
Exactement.
C'est parfait.
Donc moi, je vais te partager ce qu'on remarque le plus souvent, en fait. Une des premières erreurs, en fait, qui est commise et pour lesquelles ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire quand je dis qu'un mauvais marketing ne fonctionne pas, ça veut dire que ça génère pas de vente. Il y a personne qui...
Oui.
Okay, on manque de clients. concrètement, le manque de clients, c'est quand même un symptôme. Ça va être une mauvaise compréhension de ton audience cible. Donc, l'audience cible, c'est quoi? Je vais juste faire une petite définition, comme ça, on ne sait jamais. L'audience cible, ce sont le profil, parce qu'on peut avoir plusieurs audiences cibles. Je déconseille, en revanche, d'en avoir des trop, trop nombreuses audiences cibles, trop nombreux clients différents. C'est le profil, la typologie de client à laquelle on s'adresse, pour laquelle on a conçu notre offre. Alors, bien entendu, ça nécessite d'avoir travaillé sur qui est cette personne. On appelle ça le persona aussi.
Exactement,
on trouve aussi l'ICP, donc on peut trouver, qui est légèrement différent, mais aujourd'hui, on va quand même faire simple. Hein.
Je préfère.
À qui s'adresse-t-on? Qui est mon client? On parle aussi de client idéal. Donc, quand on n'a pas défini ça, quand on a une mauvaise compréhension, parce qu'il ne s'agit pas de dire c'est un homme de 45 ans qui est, DRH. Déjà, on arrive là, c'est pas si mal. Mais au final, ça va être aussi de comprendre qu'est-ce qu'il a en tête. Si on ne sait pas quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, quelles sont ses craintes aussi, tu vois. Donc, ouais. On parle vraiment de douleur, mais aussi de crainte, de peur. Si on n'a pas cette compréhension-là, et ben parfois, on peut juste passer à côté.
Donc, et est-ce que quand tu parles, pardon, je te coupe, mais j'ai une question qui me brûle les lèvres. Quand tu parles d'audience cible, de persona, etc., qui commence à être un terme connu maintenant, qui est de plus en plus utilisé, est-ce que tu vas jusqu'à penser à quelles sont ses habitudes, ses manières d'utiliser finalement les outils de la communication? Enfin, toi, tu le fais systématiquement, cette réflexion?
Moi, je réfléchis vraiment à comment... Alors, je réfléchis et idéalement, je vais à la rencontre. C'est-à-dire que moi, ce que je recommande à mes clients, et ce que je fais pour moi-même aussi, je ne vais pas te le cacher, parce que on n'est pas des cordonniers mal chaussés chez nous, c'est d'aller interroger des personnes qui rentrent dans notre audience, qui correspondent à notre profil d'audience, pour aller leur poser des questions sur comment ils achètent, quelles sont leurs craintes. Voilà. Alors, c'est peut-être pas des questions qui sont aussi cash, hein, mais il y a quand même des manières de poser des questions, mais pour essayer d'identifier ces éléments-là.
Okay.
Et il y a aussi dans la mauvaise compréhension, il y a aussi un truc qui est tout bête et qu'on sous-estime, c'est que parfois, on n'identifie pas la bonne personne. Tu vois, je vais te donner un exemple. Tu es une entreprise et tu vends, je sais pas moi, des logiciels en cybersécurité. Okay.
Parfait. Ok.
Bon, ok. C'est un exemple comme un autre. Hein. Et tu vas te dire, ok, alors moi, la personne que je vais aller cibler, c'est, tu vas dire, le DSI, tu vois, le directeur des systèmes, le directeur informatique. En réalité, c'est peut-être pas lui le décideur. Peut-être que le décideur, en fait, ça sera le directeur financier. Donc, si tu n'identifies pas la bonne personne ou qui est dans le cycle de vente, tu vas peut-être passer à côté et tu auras juste identifié la mauvaise personne. Donc, du coup, ça n'aura pas le même impact.
Oui, c'est vrai qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions sur qui est la personne vraiment qu'on cible et qui va pouvoir décider, prendre la décision aussi. Quoi.
Dans certains cas, tu peux en avoir plusieurs. On veut cibler le dirigeant, alors qu'en fait, peut-être que le dirigeant n'arrivera pas, c'est pas vraiment lui. Et il faut cibler un de ses managers, un DRH par exemple, parce que c'est lui qui va être en charge du projet. Et en même temps, tu peux avoir le cas où tu vas avoir plusieurs personnes dans le cycle de décision. Donc, tu vas avoir le prescripteur et le décideur. Donc ça, il faut vraiment arriver à bien comprendre ça pour savoir qui achète et qu'est-ce qu'il a dans la tête globalement.
Okay. Oui, c'est vrai que déjà, rien que là, ce premier axe de réflexion que tu nous donnes, mine de rien, je pense que c'est hyper important. Enfin, c'est sûr même que c'est hyper important parce que souvent, les gens se disent par défaut, oui, je sais qui est ma cible. Et en fait, finalement, quand tu te poses toutes ces questions-là, tu te rends compte que tu étais peut-être un peu à côté de la plaque, quoi.
Oui, et puis tu peux aussi vouloir cibler, par exemple, des toutes petites entreprises avec un produit qui va être hyper complexe. Alors qu'en réalité, ça va être surdimensionné par rapport à leurs besoins. Donc, ça veut dire que tu as une mauvaise compréhension de qui est en face de toi. Si je te sors un service qui va être dont tu vas rien comprendre parce que il va être avec plein de fonctionnalités différentes et que toi, en fait, tu es une TPE, je sais pas moi, dans le bâtiment, tu vas se dire, elle sort un bazooka pour tuer un moustique, tu vois. Donc, en fait, il y aura un problème d'adéquation. Donc, tu vas voir, ça, c'est vraiment lié à une mauvaise compréhension de ton audience cible.
Ok, je vois.
Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe assez régulièrement. Donc, c'est capital de pouvoir bien identifier à qui on s'adresse pour pouvoir, derrière, mettre en place des campagnes qui vont beaucoup mieux fonctionner.
Ok, très bien, très intéressant déjà, alors qu'on n'est qu'au début de tes conseils.
Écoute, je te remercie. L'erreur numéro 2, elle découle aussi de l'erreur qu'on a citée juste précédemment. ce qui peut faire défaut pour et qui va impacter négativement tes campagnes marketing, c'est un message qui va être peu clair ou peu pertinent. Forcément, t'as mal défini ton persona, ton message, ça c'est de la com, hein, pour le coup.
Ouais.
Et bah ton message, ça sera pas le bon. Tu vas être mal positionné et tu vas manquer de clarté. Donc tu vas, par exemple, un problème qu'on observe très fréquemment, même quand t'as bien identifié ta cible, pour le coup, c'est ceux qui utilisent un jargon technique épouvantable et qui arrivent pas à communiquer clairement sur leurs valeurs. Tu vois, globalement, je pense que ça t'arrive aussi de voir des personnes qui, ou d'entendre des personnes qui vont pitcher leur activité. Et tu vas te dire, oh, en vrai, j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas.
Et c'est dommage parce que souvent, c'est des personnes qui sont en plus hyper passionnées et motivées pour parler de leur activité, quoi.
Oui, mais par contre, ils vont le voir sous le prisme de leur expertise. Ouais. Et moi, j'en ai des copains entrepreneurs, dont je ne citerai pas le nom.
Non, on va pas citer.
Mais non, en plus, c'est des gens qui sont brillants, qui ont un service exceptionnel. Parce que je l'utilise. Par contre, quand ils pitchent leur activité, je ne comprends pas. Je me dis, est-ce que c'est vraiment ça que j'achète chez cette personne-là? Parce que je l'avais pas du tout vu comme ça.
Okay.
Donc, un message qui va être peu clair ou et du coup qui va être même perçu comme peu pertinent, ça va porter préjudice parce que ce soit à l'oral, parce que là j'ai parlé de pitcher, mais demain tu déclines sur une campagne de communication, comme tu peux très bien les faire. Toi tu vas être excellente, tu vas faire une super campagne de com parce que c'est ton travail, mais si à la base t'as pas les bonnes infos, bah ma foi t'es pas magicienne quoi.
Ça c'est compliqué, ouais.
Voilà. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose qui va être impactant. Vraiment, ce que je dis, ce qu'on remarque le plus, c'est ceux qui vont utiliser beaucoup de jargon, ceux qui vont utiliser des acronymes ou ceux qui vont parfois, même, tu vois, sur LinkedIn, je pense que tu les vois passer aussi, magicien de, architecte de. Et tu vois, même du côté, parce que là, j'ai parlé beaucoup pour les entreprises, même du côté solopreneur ou indépendant,
oui.
Et ben en fait, des fois, j'irais faites moins fantaisie, mais plus clair, tu vois, descendez d'un niveau.
Oui, c'est ça. En fait, des fois, les personnes, elles veulent tellement, elles se disent qu'il faut faire quelque chose de très original ou de très poussé pour que ça soit pertinent, alors que parfois, au contraire, ça fausse même le message. Où ça fait tout l'effet inverse, quoi. Et j'ai rencontré pas mal de gens pour rebondir sur ce que tu dis, sur, tu sais, tout ce qui est jargon technique, etc. Moi, effectivement, j'ai souvent rencontré des clients, des prospects, etc., qui étaient persuadés, mais une fois qu'on a discuté, ils ont changé d'avis, heureusement, mais qui étaient persuadés que c'était important dans leur métier d'utiliser des termes très techniques pour être crédibles. Et en fait, je leur ai fait prendre conscience que, en fait, oui, s'ils veulent être crédibles de la part de leurs pairs, confrères, etc., mais pour des clients ou des personnes qui vont potentiellement être leurs clients, les clients, ils ont juste besoin d'être rassurés. Effectivement, il faut avoir l'air pro quand on parle de son activité, mais en fait, il faut surtout que ça soit concret et qu'on sache ce que la personne peut proposer, quoi. Et moi, je me suis rendu compte que c'était souvent un problème de légitimité et c'est pour ça qu'ils utilisaient des termes très techniques, quoi.
Et je te rejoins totalement parce qu'en fait, tu veux paraître très professionnel et bien entendu que c'est tout à fait normal, mais le but premier quand tu communiques, bah, c'est d'être compréhensible.
Ouais.
Donc, je veux dire, tu peux avoir l'air très professionnel, si on capte pas ce que tu fais, c'est quand même un petit peu délicat. Et ouais. dans ce message qui va être incompréhensible, en réalité, on oublie souvent un levier qui est très puissant. C'est avant de parler de tout ce qui est fonctionnalité et de comment tu mets en place. Comment tu soignes la douleur, comme moi j'aime bien utiliser ce genre d'image, c'est parle du bénéfice en fait.
Ouais.
Parce que c'est très bien d'avoir 12 000 fonctionnalités dans ton logiciel, mais qu'est-ce que ça te permet d'obtenir?
Oui, plutôt que de la technique, il faut plutôt même essayer de mettre de l'émotion ou du.
Voilà, parle de l'être et de l'avoir. Qu'est-ce que ça te permet d'obtenir ou de ressentir? Et après, dans la technique, en fait, elle vient pour soutenir ça. Ça va venir, c'est cette partie-là, je te rejoins. Ça va venir rassurer sur le comment je t'emmène là-bas. Okay, moi, j'aime bien dire, c'est comme partir en voyage. Donc, tu fais d'abord rêver sur la destination. Donc, le message clair, ça va être la destination hyper claire. Je veux partir sur une île avec de la mer bleue et du soleil, un super bungalow.
Okay. Tu m'emmènes avec toi, alors. Hein.
Ouais, pas de souci. et derrière, c'est comment je vais t'y emmener. Là, c'est la partie plus, tu vois, plus sérieuse, plus technique. OK, bah, on va prendre l'avion. Tu seras en première classe. On va t'accueillir. Tu vois, derrière, c'est ça qui va venir
ouais.
marquer. Ton expertise.
Ouais, en fait, il faut d'abord faire, entre guillemets, rêver pour ensuite pouvoir rassurer et donner les caractéristiques techniques, finalement. Quoi.
Il faut pouvoir projeter son client dans la résolution de son problème.
Mm.
Et le client, il veut, ça le fait pas rêver d'avoir 12 000 fonctionnalités dans son logiciel. Ce qu'il veut, c'est que ça lui simplifie son quotidien, c'est que ça lui permet d'optimiser ses coûts. Tu vois, je dis n'importe quoi, mais c'est ça en fait, in fine, ce qu'il veut.
Ouais, c'est ça, ouais. Et effectivement, après, je trouve que, enfin, on va voir par rapport aux autres conseils qu'on va aborder là pendant l'épisode, mais je trouve que souvent, moi, ce qui me semble le plus compliqué, même pour moi, hein, d'ailleurs, je le dis, et aux yeux de mes clients, finalement, c'est vraiment le faire passer le bon message. Je trouve que ça, c'est vraiment compliqué, quoi.
Je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que toi, en tant que professionnel de la communication, tu vas avoir besoin de ces éléments-là pour bien faire ton travail. Et si ton client, lui, il n'arrive pas à l'exprimer, s'il a identifié des éléments, moi, ce qu'on appelle ici les fondations de son marketing, donc c'est vraiment de sa stratégie, à qui il s'adresse, quel est son positionnement, toutes ces choses-là. Si t'es pas là, si t'as fourni les mauvaises informations, alors bien sûr, tu peux l'aider à le faire, hein, mais s'il te dit non, c'est ça, et je veux une campagne de communication là-dessus, bah, ma foi, tu vas le faire avec les éléments que tu as, mais tu vas passer à côté, mais ça sera pas ta faute à toi, Natalia.
Oui.
C'est à la base, je veux dire, si tu rentres les mauvaises coordonnées dans le GPS, tu risques pas d'aller au bon endroit, quoi.
Et je vais pas m'énerver contre mon GPS.
Exactement. Parce que toi, ton GPS, il marche très bien.
Okay, j'aime bien tes exemples, tes comparaisons. C'est
bah, ça fait partie de rendre le marketing accessible, tu vois.
C'est ça. C'est,
ça
c'est
m'éclate. Hein, on va pas... ça m'éclate aussi.
Oui, c'est ça. Bon, bah, super. Donc, OK, pour ton deuxième point d'attention, j'ai bien noté.
Une autre erreur, une troisième erreur que je peux te partager, c'est l'absence d'offre. Alors, une offre, je vais, pareil, je vais faire une petite parenthèse. J'aime bien faire mon... T'es ma maîtresse d'école. Une offre, c'est pas un catalogue de produits.
Ouais.
Tu vois, une offre, c'est... Et c'est souvent, en fait, l'écueil, c'est que soit on n'en a pas et on n'en parle pas. Bon, là, effectivement, si on ne sait pas ce que tu vends, tu risques pas de le vendre.
Ouais.
Ou alors, ça va être le catalogue produit. C'est-à-dire, je fais ça. Une liste. Sauf qu'une liste de produits, c'est comme... une liste de médicaments. Tu vois, quand tu vas chez le médecin, je vais reprendre encore un exemple. Quand tu vas chez le médecin et que tu vas lui partager tes symptômes, tu vas pas chez le médecin en lui disant « alors, donnez-moi du Spasfon, du Doliprane ». Tu vois, le médecin, il va analyser tes symptômes et il va te proposer une ordonnance, un traitement
ouais.
par rapport à tes symptômes qu'il aura observés, il t'aura posé des questions, tout ça. Okay, donc, ça, c'est une offre. Si toi, en tant qu'entreprise, tu n'as pas d'offre de solution, l'offre vraiment de la solution en elle-même à proposer à tes clients pour les aider à soulager leurs symptômes. Eux, c'est pas eux qui vont venir et dire, bah alors donnez-moi de ça et de ça, et puis ça ira bien, tu vois. Et,
ouais.
et parce qu'en réalité, quand tu es surtout dans des métiers à forte expertise, tu sais pas forcément ce dont tu as besoin.
Ouais.
Donc du coup, pas d'offre, difficulté à vendre. On ne sait pas ce que tu fais, voire même parfois on ne comprend pas. On voit peut-être des noms, mais on n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Okay. Donc ça, c'est la première difficulté. Ton marketing ne fonctionne pas, tes actions ne fonctionnent pas, parce que tu as beau dire on fait ça et ça, les gens n'arrivent pas à se projeter, tes clients ne se projettent pas parce qu'ils ne savent pas ce dont ils ont besoin.
Okay.
Et après, il y a un deuxième point aussi, c'est que tu n'as pas d'offre quand tu communiques. C'est vrai que tu vas communiquer sur je sais pas, des études de cas, et encore des études de cas. Ça peut, mais tu vas donner du contenu. C'est bien, il y en a plein. Enfin, c'est pareil, tu vois plein de gens sur LinkedIn qui donnent du contenu. Il y en a certains, je ne sais toujours pas ce qu'ils vendent.
Oui, c'est ça. En fait, c'est que... Oui, enfin, ils vont pouvoir transmettre énormément de conseils. Donc, d'un côté, on sait à peu près sur quel domaine ils se positionnent dans leur...
des fois, ils parlent de beaucoup de choses différentes. Ouais. Tu n'arrives pas très bien à savoir ce que c'est.
Par contre, c'est vrai qu'parfois, ils ne parlent jamais de comment passer à l'action, en fait.
Mais c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, tu es là pour vendre, quoi. Donc, tu peux te faire plaisir en partageant du contenu. Mais si à aucun moment, tu dis, on a cette offre-là, tu sais, les fameux contenus tofu, moufou, boufou.
Ouais.
Voilà, on applique ou on n'applique pas, mais que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit par email ou que ce soit par pigeon voyageur. Bon, même, je vais te dire.
Ah,
même
ça, je ne le conseille plus trop, le pigeon voyageur en ce moment.
Non,
mais...
enfin, peut-être que ça fera un grand comeback. Hein. Mais même, je te dirais, quand tu rencontres des gens dans des soirées networking, tu dois être capable de dire je propose tel type de prestation, mais sans sortir ton catalogue,
oui, c'est
ton catalogue produit, tu vois.
En fait, il faut être capable d'avoir, même si on a un certain nombre de prestations différentes, finalement, bah, comme tu donnes ton exemple là pour l'ordonnance, de sortir la bonne prestation au bon moment pour la bonne personne.
Oui.
Je m'en rends compte parce que moi, je fais beaucoup de réseaux et de clubs d'entreprise, etc. Et effectivement, il faut rapidement pouvoir analyser qui on a en face de soi et quelles sont ses problématiques et pouvoir lui proposer tout de suite quelque chose de percutant, finalement, en termes d'offres, quand on va citer.
Ou au moins lui donner un exemple de ce que tu fais.
Ouais.
Voilà, nous, moi, je suis une agence de conseil en communication et je vous accompagne. Si vous avez tel problème, j'ai ce type d'offre, tu vois. Ce qui ne veut pas dire que tu fais de la masse, tu vois. Mais oui. Moi, ce que je trouve intéressant quand tu as une offre qui est claire et que tu n'es pas obligé de réinventer la roue systématiquement, c'est que bah justement, tu n'es pas en train de réinventer la roue pour chaque client. Donc, c'est comme quand tu vas acheter un jean chez Zara, par exemple. Tu sais que le jean, il est taillé d'une certaine façon qui va convenir. Et puis après, ben, parfois, si tu veux couper un peu parce que faut faire un ourlet, parce que tu vois, comme moi, je suis pas très grande, je suis souvent obligée de couper un peu les jeans. J'arrive quand même à en trouver. Hein. Mais pour reprendre l'exemple de l'ordonnance, c'est de se dire aussi, tu sais que tu as un traitement pour une pathologie.
Oui, puis il faut doser.
Exactement. Ben, exactement. Par contre, la posologie, donc les dosages, comme tu le dis, ne vont pas être forcément les mêmes pour tout le monde. Mais tu sais que tu as quand même une base. Puis parfois, on va rajouter des probiotiques. Non, je rigole. Mais tu as quand même une base qui fait que ça, c'est ton offre. Et ton offre, si tu n'en parles pas, ben, tu risques pas de vendre.
Ouais.
Offre, tu en parles sur ton site internet. Ton offre, tu en parles sur tes publications LinkedIn. Alors, je ne dis pas qu'il faut en parler tout le temps, mais à un moment donné, il faut en parler.
Ouais,
sinon, tu risques pas de vendre.
Et ça, il y a pas mal de gens qui ont des freins aussi par rapport à ça. En tout cas, moi, je suis confrontée à ça en communication, que ça soit, enfin, par exemple, quand je donne des formations réseaux sociaux, souvent les gens, en fait, ils disent, oh ben non, mais je vais pas parler de ça. Mais en fait, si, il faut en parler. Mais il y a des manières de faire. En fait, c'est comme tout. Tu peux mettre en avant et vendre sans passer pour un marchand de tapis, quoi. Il faut trouver l'équilibre et aussi rester aligné avec sa personnalité, quoi.
Exactement.
Ok,
exactement.
Donc effectivement, l'absence d'offre ou finalement une offre qui n'est pas claire, ça peut être un gros problème. Oui.
Ça peut être un très, très gros problème.
Donc, on ne vous le conseille pas.
Absolument pas. Un quatrième point, et là, c'est quand on mène des campagnes. Donc là, tu es passé à l'action, tu fais des campagnes, je ne sais pas moi, des campagnes de mail, par exemple. Tu fais une campagne de mail ou de publicité. Ou,
ok. Peu importe,
ou même, tu mets en place un compte, tu as décidé d'être présent sur les réseaux sociaux. Tu vois, une action que tout le monde fait quasiment. Si tu as des objectifs qui sont flous, voire même pire, qui ne sont pas définis, qui ne sont pas clairs et mesurables, comment tu fais pour savoir si ça fonctionne ou pas? Tu auras souvent l'impression que ça ne fonctionne pas. Et si ça fonctionne, tu ne sauras même pas, ou si tu dis oui, ça fonctionne, tu ne sauras même pas sur quoi te fonder.
Mmh.
Donc, il y a un moment donné, quand on met en place des actions dans son marketing, eh ben, il faut se dire comment je fais pour les mesurer. Okay. Est-ce que... Je vais développer ma page entreprise. Ok, combien je veux obtenir de nouveaux abonnés? Combien je veux je fais une campagne de mail. À quel moment j'estime que ça a fonctionné? Combien de rendez-vous j'ai obtenu par rapport à combien de personnes j'ai contactées? Tu vois, donc ça, si t'as pas à un moment donné des objectifs clairs et mesurables pour dire ça marche ou ça marche pas, en fait, voilà, tu peux un peu dire tout ce que tu veux. Donc pour moi, par défaut, tu peux dire que ça marche pas.
Oui, puis en plus, souvent, tu as tendance à... Enfin, tu le vois, enfin, je ne sais pas si ça te le fait aussi, mais quand je parle de ça avec certains clients, ils me disent « Ah bah oui, ça a bien marché » ou « Ça, non, ça n'a pas fonctionné ». Et quand on les met face aux chiffres, ils sont parfois même surpris. Ils me disent « Ah ouais, bah, je ne me rendais pas compte, en fait ».
Exactement.
C'est hyper important, quoi.
Exactement. Tu vas dire « Ah bah super, j'ai eu deux rendez-vous, c'est génial. Mmh. Bon, est-ce qu'ils étaient qualifiés ? Tu ne sais pas. Sur combien de personnes contactées ? Tu ne sais pas non plus. Donc finalement, c'est quand même important d'essayer de mettre en perspective ces choses-là. Et pour arriver à dire ça fonctionne ou ça fonctionne pas, utilisons un petit peu les données, la donnée pour et notamment des objectifs. Alors on n'est pas obligé de partir dans des trucs, tu vois, rocambolesques. Hein,
oui.
Mais arriver à se dire à partir de quel moment je pense que ça a marché. Tu vois, et là c'est un conseil parce que tu vois, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, dire bah, « cette année, je veux développer ma notoriété. Ok, qu'est-ce que je mets en place pour développer ma notoriété ? Eh bien, je vais faire 50 demandes de mise en relation dans le mois. Je vais demander à 50 personnes de suivre ma page LinkedIn. »
Oui, mais tu vois, tu dis que c'est bas, mais au final, en fait, tout est relatif. C'est-à-dire que parfois, comme les gens, ils se mettent tellement de freins ou ils ont des idées reçues par rapport à la complexité des choses où ils veulent ils disent « mais moi, je peux pas vidéo, etc. » Mais parfois, il suffit même avec des petits objectifs, mais qui sont bien tenus. Et quand on met en place tout ce qu'il faut pour y arriver, parfois, c'est suffisant. Donc, faut pas non plus vouloir viser trop haut. Et parfois, même si c'est des petits objectifs, ils peuvent être très efficaces, quoi. Donc,
En fait, je pense qu'il vaut mieux se fixer des petits objectifs, mais s'y tenir, tu vois.
Ouais, et puis faire étape
mettre
par...
en place ce qu'il faut pour y arriver. Mais au moins, on aura une base où on pourra dire « J'ai fixé des objectifs clairs, j'ai mis en place ce qu'il fallait pour les atteindre. Je peux, à la fin de ma période... » Moi, j'aime bien raisonner en trimestre, tu vois, sur la plupart des choses. « À la fin de ma période, me dire « Est-ce que j'ai atteint mon objectif ou pas ?» Et puis derrière, tu peux te dire que, en fait, ça sert à quoi ? Ça sert à se dire « Est-ce qu'on continue ?» Est-ce qu'on change? Mais si tu ne définis pas des objectifs clairs et mesurables et que tu fais pas à un moment donné le point en se disant est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas, tu auras peut-être tendance à dire oh ben ça fonctionne, tu vois, genre j'ai eu deux leads. Et alors qu'en réalité, si tu fais cette analyse, tu peux dire finalement je pourrais changer des choses pour que ça fonctionne mieux.
Oui, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est marrant parce que du coup, j'ai un épisode là qui sort bientôt sur les KPI, justement.
Exactement.
Comment fixer les indicateurs clés de performance pour suivre sa communication. Et j'ai bien insisté dans l'épisode. Donc justement, tu vois, tu parlais de newsletter. Donc moi, j'ai parlé de KPI pour les newsletters, les réseaux sociaux, son site, etc. Et parfois, en fait, c'est des choses simples hein, qu'il suffit d'analyser, mais ça permet de prendre les bonnes décisions derrière. Et comme tu dis, de mettre en place finalement un plan d'action pour que ça fonctionne au fur et à mesure. Quoi. Donc,
oui, tu vois, simple. Si tu le dis très bien pour la newsletter ou pour tes campagnes de mail, si tu n'analyses jamais les taux d'ouverture, les taux de clics, tout ça. Comment tu sais si ça fonctionne ou pas ? C'est pareil pour le trafic de ton site internet.
Mm.
Moi, j'ai plein de gens, j'ai plein de clients. Des fois, je leur dis, votre site internet, alors, on regarde jamais les chiffres.
Ouais.
Après, je les comprends, quand t'es pas initié, des fois, c'est un peu, tu vois, c'est un peu indigeste, mais...
Ouais. Ah oui, mais clairement, après, une fois que tu as compris, c'est pas compliqué, une fois que tu t'es apprivoisé un petit peu l'outil, mais c'est vrai qu'au début, quand tu arrives là-dessus et que tu connais rien, ça peut faire peur. Hein.
Exactement. Voilà, moi, je renvoie à l'épisode qui sort bientôt, hein, visiblement, que j'écouterai avec plaisir d'ailleurs.
Hein. Et tu me diras ce que t'en penses alors.
Fixer des objectifs, c'est très important pour pouvoir évaluer l'efficacité ou non de nos campagnes.
Ouais, et puis se fixer, après, t'inquiète pas, je te laisse aller au conseil 5, mais je voulais juste rajouter. Tu disais donc se fixer des objectifs. Toi, tu parlais de trimestre. Moi, c'est aussi ce que j'ai dit d'ailleurs dans mon épisode. En fait, on n'est pas obligé de regarder ces chiffres tous les mois, toutes les semaines. En fait, il faut se dire soit je le fais tous les mois, soit je le fais tous les trimestres. Mais ce qui compte, c'est de le faire de manière régulière pour pouvoir comparer et agir. Quoi. Voilà, c'était le petit
et
mot
de la fin. Tu l'as très bien dit pour pouvoir comparer.
Exactement.
Sauf quand on démarre quelque chose, on n'a pas de base de comparaison, évidemment. Pour terminer, la cinquième erreur, c'est un manque de moyens. Alors, il faut quand même réaliser que... Alors, quand je dis un manque de moyens, ça peut être un manque de moyens au niveau du budget et un manque de moyens des ressources limitées.
Ouais.
Il y a certaines actions, si on veut les entreprendre, il faut quand même mettre un peu de moyens dedans. Je ne dis pas qu'il faut sortir la machine de guerre, mais parfois... Quand on alloue un budget trop faible à une action, ça aura pas un impact significatif.
Mmh.
Tu vois, si vraiment tu te dis que tu veux faire de la publicité sur LinkedIn ou même de la publicité sur Meta, si tu mets pas un minimum de budget, je pense que tu dois, tu es très bien placé pour le savoir et même pour le recommander, si tu mets pas un petit peu de budget, t'auras pas des beaux résultats, quoi. T'auras pas. Alors, je dis pas qu'il faut de suite mettre des budgets colossaux, mais faut quand même partir. Et ça, je pense qu'il y a des bonnes recommandations dessus de la part professionnelle. Tu vois, comme toi, j'imagine que tu fais les recos à tes clients sur les budgets pour démarrer. Et tu peux démarrer avec un budget initial pas trop minuscule pour quand même voir si ça marche ou pas. Et derrière, parfois, si ça fonctionne, puisque tu auras défini des objectifs et pourras l'évaluer, c'est comme à la machine à sous, tu vois. Tu mets une petite pièce, pas trop petite non plus. Tu vois les gains que tu peux obtenir. Si tu vois que ça marche, t'en remets encore et tu t'en rajoutes. Ouais. Mais surtout, tu mesures toujours. Tu vois, tu fais toujours le suivi. Mais avoir un budget trop faible, forcément, tes campagnes, elles vont pas fonctionner. Tes campagnes marketing vont pas fonctionner.
Oui, c'est ça. C'est que parfois, en fait, il faut déjà savoir dès le début, est-ce qu'on a les moyens sur le moment de mettre en place telle action pour le faire bien? Si on n'a pas les moyens, c'est pas grave. On le prévoit plus tard. On fait autre chose en attendant. Il y a des choses, il y a plein d'actions possibles à mettre en place et il faut choisir la bonne action au bon moment. Et est-ce que, on a effectivement les moyens de le faire correctement?
Exactement.
Et parfois, il vaut mieux repousser un peu pour avoir le bon budget pour le faire bien plutôt que de le faire alors que finalement, le budget ne suit pas et finalement, on sera déçu.
Je te rejoins totalement. Parfois, il vaut mieux, si on n'a vraiment pas le budget pour se lancer dans une action, il vaut mieux le garder pour d'autres actions et se dire, je valide déjà ces étapes et je sais que le budget minimum pour démarrer celle-là, ça sera X. Sinon, je ne vais pas avoir de résultats significatifs.
Ouais. Mais ça, je trouve que c'est dur pour les... c'est difficile pour les personnes qui ne sont pas du métier. Tu vois, ils ont souvent, quand je discute avec des personnes qui se renseignent pour leur com, etc., ils n'ont pas trop de notions pour les gens qui sont non initiés, de notions des budgets finalement pour chaque action de communication.
Oui, mais tu vois, parallèlement, parfois, ils vont mettre des gros budgets dans un site internet.
Oui.
Parce que c'est, tu vois, c'est ta vitrine, c'est tout ça. Et j'ai rien contre. Moi, je pense qu'un bon site internet, c'est très bien. Hein. Mais parfois, ils vont mettre des budgets presque surdimensionnés dans un site internet, ouais, plutôt que de se dire, on fait un site internet clean parce qu'il faut quand même bien aussi renvoyer. Tu vois, si ça fait partie de ta stratégie, faut bien renvoyer le trafic dessus. Mais tu peux démarrer plus petit, même avec une très belle landing page, et mettre du budget sur de la publicité ou de l'ads. Tu vois, du Google Ads. Donc ça peut être, quand tu manques de moyens aussi, j'associe une mauvaise allocation du budget.
Je suis d'accord avec toi et ça, moi, je le vois aussi. Hein. Souvent, parfois, des personnes, et c'est dommage parce qu'ils mettent des gros budgets sur des actions alors que par rapport à leur activité, ils n'avaient pas besoin d'avoir quelque chose comme ça. Et du coup, ils n'ont plus de budget pour le reste. Et effectivement, il faut bien choisir comment on dépense ces budgets. Et aussi, tu parlais de budget, mais tu parlais aussi de ressources humaines, de compétences,
oui,
etc. Ça, c'est pareil. Enfin, on va voir ce que tu nous dis à ce sujet-là. Mais...
Non, mais je pense que c'est quelque chose que tu dois observer également. C'est que tu veux mettre en place des actions, mais finalement, les personnes en interne, même si dans la plupart des cas, c'est des personnes qui sont même très bonne volonté, mais on n'est pas doué en tout. Et parfois, on manque de compétences sur certains sujets. Donc, tu peux avoir même une personne chargée du marketing en interne, mais qui va pas tout maîtriser, et dans ce cas-là, elle va pas réussir à mettre en place l'action. Moi, j'ai reçu encore à midi un mail pour m'inviter à un événement. Alors déjà, le mail, aucune mise en forme, le mail qui commence par Madame, Monsieur, j'avais les yeux qui saignaient, tu vois. Et ça, pour moi, clairement, c'est un manque de compétences. C'est que tu ne sais pas comment faire un emailing, tu vois, une campagne d'email marketing. Je doute, j'ai même pas vu d'appel à l'action, tu vois. Je crois que c'est un retour de mail ou un truc comme ça. Bref. Parfois, c'est un vrai frein. Donc, dans ce cas-là, tu peux avoir t'as plusieurs options. C'est soit tu formes la personne, soit tu fais appel à des professionnels. Donc, c'est vraiment le métier. Ça nécessite un petit budget aussi. Donc, vraiment, le manque de moyens, il faut aussi le prendre en considération. Moyens, donc compétences et budget.
Et après, effectivement, parfois, c'est important de réfléchir. Est-ce que j'ai plutôt intérêt à avoir quelqu'un en interne à recruter ou à former quelqu'un que j'ai déjà? Ou est-ce que c'est plus important de le confier entre guillemets à un expert externe? Parce que parfois, il y a plein de critères qui rentrent en ligne de mire. Et effectivement, il y a plusieurs options. Il faut bien réfléchir à tout ça, quoi.
Exactement. Et c'est vrai que c'est toujours un sujet un peu délicat. Quand tu as déjà une ressource en interne, tu vois, il y a quand même beaucoup de formations aujourd'hui sur le marché et d'excellentes formations. Donc, tu peux choisir de la former. Je pense que c'est une très bonne option, la formation. Et tu peux aussi te dire que la personne, elle est très douée dans son domaine, même si elle fait de la com ou du marketing. Tu peux être très douée dans un domaine. Par exemple, moi, je vois dans mon métier, qui est aussi lié au tien, c'est qu'elle va être une très bonne chargée de marketing, mais les compétences rédactionnelles sont pas folles, tu vois. Ou faire du rédactionnel optimisé pour le SEO, c'est encore c'est encore d'autres compétences. On peut pas avoir, aujourd'hui, on est sur des métiers qui sont quand même très techniques et avec des expertises qui sont très fortes dans des domaines pointus du marketing. Enfin, moi, par exemple, le SEO, j'associe ça au marketing parce que c'est un des outils. Le copywriting aussi, tu vois, dans le copywriting, t'as ceux qui font des landing pages, t'as ceux qui font. Ça, c'est.
Ouais, c'est vrai que c'est.
Et c'est difficile d'avoir absolument toutes les compétences.
Je suis d'accord avec toi. Et c'est marrant, je vous raconte ma vie, mais on est entre nous. Ce midi, j'ai déjeuné avec deux personnes dans mon réseau qui sont dans la com aussi. Je vais pas les citer non plus, mais.
Ils nous écoutent.
Et en fait, justement, on se posait la question de aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux avoir une agence de com 360, tu sais, avec soi-disant, entre guillemets, toutes les compétences, hein, ce qui est possible
le
si
one stop shop.
Personne. Voilà, mais est-ce qu'il vaut mieux être agence de com 360 ou est-ce qu'il vaut mieux pas avoir plutôt une agence de com spécialisée sur un métier et s'entourer de professionnels? Et c'est vrai que, au final, comme tu dis maintenant, que ce soit dans le marketing ou plus précisément dans la communication, il y a tellement d'aspects et qui demandent des compétences tellement différentes que c'est important d'avoir en face de soi la bonne personne pour la bonne compétence, quoi. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse.
Non, mais je te rejoins et c'est vrai que c'est aussi des sujets sur lesquels, tu vois, avec Sandy, donc qui est cofondatrice avec moi, qui est mon associée, des aspects auxquels on réfléchit aussi. Et nous, concrètement, on fait aussi appel régulièrement pour nos clients. Mais enfin, nos clients le savent totalement. En fait, on monte des équipes avec des experts pour pouvoir mieux intervenir sur des sujets très précis chez eux. Mais si je reviens à l'exemple du médecin, le médecin, il va apprécier ta situation globale et il va faire intervenir des spécialistes aussi.
Ah oui, il t'envoie chez le pneumologue, chez le cardiologue.
Exactement.
Chez l'allergologue.
Exactement. Ouh, il y a un petit terrain allergique, non?
Voilà. Mais non, mais c'est clair que moi, je fonctionne exactement comme toi, c'est-à-dire que je me constitue des équipes en fonction des besoins des clients, etc. Et je trouve que c'est... Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien ce fonctionnement, quoi. OK, donc en gros, avant de passer à la suite, moi, ce que j'ai... Pour récapituler un petit peu là tout ce qu'on s'est dit, il y avait quand même 5 points d'attention là sur lesquels réfléchir. Donc le premier, c'était vraiment penser à son audience cible. Le deuxième, c'était plutôt en ce qui concerne le message, donc avoir un message clair, pertinent, etc. Troisième point, c'était réfléchir à l'offre, donc avoir une proposition de valeur, avoir une offre claire, spécifique, qui n'empêche pas d'avoir des formules qui reviennent, bien évidemment, mais qu'on peut personnaliser. Le quatrième point, c'était tout ce qui était les objectifs, donc avoir des objectifs clairs et suivis avec des KPI.
Oui, très important le suivi.
Et le cinquième point, c'était de penser à ses moyens à la fois financiers et en termes de ressources humaines, de compétences, etc. Donc là, c'est intéressant pour tout le monde de suite à l'épisode, vous pourrez réfléchir à tout ça. Est-ce que j'ai bien résumé pour l'instant ?
Oui, alors en dernier point, il y en a qui disent ça marche pas ou on est nul. Souvent, c'est on est nul. Ouais. Il y a aussi ceux qui ne font rien. C'est-à-dire que forcément, votre marketing et votre communication, votre stratégie marketing et votre communication ne fonctionneront jamais si derrière vous ne passez jamais à l'action. Là, il n'y a pas de miracle. Hein. Ouais. Si on vous donne l'ordonnance et que vous ne prenez pas les médicaments, il n'y aura pas de magie.
Ouais, c'est ce que me dit mon médecin souvent.
Mauvais élève ?
Mais tu as raison de le préciser parce que, en fait, il faut aussi que les personnes, quand elles se lancent dans une démarche, par exemple de faire appel à toi ou à moi, elles aient envie de passer à l'action parce que c'est bien beau, là, on leur donne toutes nos préconisations, mais si derrière, il n'y a pas de passage à l'action, ben en fait, ça ne sert à rien. Donc, il faut quand même être prêt à passer à l'action, en fait.
Oui, si tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, si tu ne l'appliques pas, si tu ne fais rien, ben en fait, il ne se passera rien.
C'est ça.
Parce qu'en plus, tu en as une super, tu vois, alors qu'il y en a qui essayent, mais ils ont juste la mauvaise audience cible, pas d'offres. Mais bon, je veux dire, au moins, ils ont le mérite d'essayer.
Ouais.
Mais... Voilà.
Et c'est en essayant qu'après, ils pourront progresser.
Oui, il ne faut pas s'entêter dans une direction si tu vois qu'il y a des problèmes, par contre.
Oui, voilà, c'est ça. Super, ben en tout cas, donc là, pour moi, je pense que déjà, toute la première partie de l'épisode, là, c'est hyper clair, hyper précis, hyper pertinent. Donc, merci déjà à toi pour tout ça.
Avec plaisir.
Et tu sais, je te l'avais dit, et tout le monde est impatient, mais nous, on adore aussi finir l'épisode avec des conseils actionnables. Donc, est-ce que tu veux nous dire quels sont les 3 conseils actionnables que tu as choisi de nous partager?
Bah écoute, déjà, je trouve que c'est un super takeaway de proposer à chaque fois 3 conseils actionnables parce que c'est toujours très agréable de parler de sujets qu'on apprécie. Mais en réalité, rien ne vaut, comme on le disait, le passage à l'action. Et ces 3 conseils, j'espère qu'ils pourront faire passer à l'action ceux qui ne seraient pas encore dirigés dans cette voie-là. Donc, mon tout premier conseil, les 3 vont être liés forcément à ce qu'on s'est dit aujourd'hui, ça va vraiment être d'interroger ses clients pour savoir déjà s'adresser aux bonnes personnes. Donc, connaître vraiment qui ils sont, quelles sont leurs aspirations, quelles sont leurs douleurs, quels sont leurs doutes aussi, tu vois. Comment ils achètent, hyper important de savoir comment ils achètent, pour pouvoir aussi ensuite bien les connaître et créer des messages qui vont être pertinents.
Si je peux me permettre de te poser des questions.
Mais je t'en prie.
Quand tu parles d'interroger ses clients, je sais qu'il y a plusieurs manières de faire. J'ai des personnes, par exemple, qui font des questionnaires, qui envoient des questionnaires en ligne à certains de leurs clients. Il y en a qui vont faire des tables rondes, enfin, qui vont passer des appels. Enfin, toi, c'est quoi ton... Comment tu proposes de le faire, toi ?
Alors, le questionnaire, c'est toujours intéressant pour avoir du... En fonction de combien tu peux en interroger, c'est toujours intéressant de faire des questionnaires pour pouvoir avoir un peu une petite quantité, tu vois, pouvoir dégager des grandes thématiques. Je conseille pas de faire trop de questions fermées, par contre, parce que l'idée, c'est justement de pouvoir utiliser leurs mots. En revanche, même s'il y a cette partie questionnaire envoyée, ce qui est quand même confortable, hein, parce que c'est facile à récolter, je recommande toujours de pouvoir interroger ses clients ou des entreprises ou des interlocuteurs, on va dire, qui sont dans l'audience que vous avez, que tu cibles. Okay. Parce que moi, j'ai parfois des clients qui viennent me voir, eux-mêmes n'ont pas encore vraiment de clients. Donc, je dis, identifie ceux qui ont le profil, tu vois, et essaye de décrocher un entretien. Alors, rapide, parce que forcément, tu peux pas trop importuner les gens, mais pour pouvoir leur poser vraiment des questions. Et en fait, parler, je sais que ça peut en faire transpirer quelques personnes, parce que tout le monde n'aime pas interroger, on a toujours peur de déranger. Mais en réalité, les gens... Ils aiment bien parler d'eux. Donc, souvent, ça se passe quand même relativement bien. Et surtout, on peut récolter leurs mots, leurs vrais mots, la manière dont ils s'expriment. Ouais, et ça, c'est ça, hyper important.
Après, comme tu dis, je pense qu'il y a... il faut choisir les bonnes personnes, parce que le but, ce n'est pas non plus d'en contacter 50 000, mais poser les bonnes questions et qu'ils puissent s'exprimer vraiment avec leurs mots et se sentir libres, parce qu'on a besoin de ça, en fait, qu'ils soient authentiques et qu'ils aillent au bout des choses pour que ça puisse nous servir, quoi.
Oui, oh oui, donc ça, c'est vraiment des techniques d'entretien. Mais dans tous les cas, c'est déjà d'interroger ses clients et de faire ce travail, si on a déjà des clients, déjà, de faire déjà ce travail de dire, OK, ben, lui, j'en voudrais, dès comme lui, j'en mangerai tous les jours au petit-déj, tu vois, j'en voudrais tous les jours au petit-déj. Donc, tu le prends et tu l'encadres et tu dis, et tu le décris en long, en large et en travers. Qui il est, quels sont ses problèmes, puisque tu as déjà travaillé avec lui, tu sais comment il fonctionne. Donc, déjà, sers-toi de cette base-là pour pouvoir, derrière, en trouver d'autres.
Et est-ce que ton deuxième conseil actionnable, parce que moi je le sais, mais je vais te laisser le dévoiler, est-ce que justement tu le penses par rapport à ton conseil 1 ou tu les dissocies tous tes conseils?
Non, parce qu'en fait l'offre, donc le deuxième conseil, c'est de créer une offre.
Voilà.
Et cette offre, tu la crées pour résoudre le problème du profil que tu auras identifié comme ton persona. Donc c'est sûr que tu vas créer cette offre, tu vas la constituer pour pouvoir la vendre à cette audience-là, donc à ce persona-là. Mais par contre, c'est important d'avoir une offre et c'est important d'en parler. Donc, dans l'offre, t'as plusieurs éléments pour construire ton offre. Ça pourrait même faire l'objet d'un autre épisode.
Ah, parce bah, que pourquoi pas?
Je vais pas m'étendre dessus. Mais l'offre, c'est comment tu agences tes différents produits en une solution globale. Comment tu la livres, en fait, comment tu la délivres. Il y a un tarif aussi, hein, dans une offre. Et, quelle est la méthode, tu vois, quelles sont tes étapes pour y arriver. Donc, et comment tu la vends aussi, c'est hyper important. Oui. Donc, c'est vraiment, tu vois, il y a plusieurs aspects dans l'offre. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Donc, je vais pas être trop longue dessus parce qu'il y a quand même un dernier conseil actionnable que je voudrais partager. Mais okay. En tout cas, c'est vraiment de bien identifier à qui on s'adresse et de créer une offre pour eux. Et troisième point, c'est de définir un plan d'action clair avec des objectifs mesurables. Et deuxième temps, le mettre en place avec un suivi. Donc là, je pense que ton épisode va vraiment être intéressant pour tes auditeurs là-dessus. Mais c'est ça. En fait, ça garantit le passage à l'action. Qu'est-ce que je mets en place pour atteindre ces objectifs que je me suis fixés et comment je les mesure? Okay. Ça peut paraître très scolaire, mais je n'ai pas trouvé de meilleure méthode pour l'instant.
Non, mais c'est très bien. Et en plus, je trouve que tes trois conseils, finalement, ça recoupe ce qu'on s'est dit en intro, mais sauf que là, c'est un petit peu la to-do list des personnes qui nous écoutent. C'est-à-dire que vous avez écouté un peu les 5 points d'attention que Laurie nous a donnés. Et maintenant, concrètement, par quoi commencer? Donc, en suivant les 3 conseils de Laurie, donc interroger ses clients ou sa cible pour mieux les connaître. Ensuite, créer une offre, enfin vraiment travailler autour de son offre. Et troisième point, définir son plan d'action avec ses objectifs. Enfin, pour moi, c'est hyper, hyper clair comme ça. Ouais.
Moi, j'aime bien la méthode OKR. Je ne sais pas si tu l'utilises. Objective Key Results, qui est vraiment, tu vois, tu définis un objectif global et derrière, tu le déclines en résultats clés. Comment je sais que j'atteins mon objectif? Eh bien, je sais qu'en résultats clés, ça va être chiffré. J'aurai développé ma page LinkedIn avec plus de 100 abonnés. Et qu'est-ce que je vais mettre en place pour ça? Eh bien, ça, c'est les actions. C'est, je vais poster 3 fois par semaine sur ma page LinkedIn. Je vais demander à mes collaborateurs ou moi-même en tant que dirigeant, faire également des posts pour promouvoir ma marque, en fait. Hein. Et je vais aussi développer mon réseau, inviter des personnes, X personnes par semaine, à venir suivre la page entreprise. Donc, tu vois, ça permet de savoir, d'avoir un niveau de granularité et de te dire concrètement quelles sont les étapes par lesquelles je vais passer pour pouvoir atteindre ces objectifs. Mmh. Parce que si tu te dis, je vais faire 10 cas ce mois-ci, 10 000 euros ce mois-ci, qui est un SMIC LinkedIn, hein, ça tombe bien. OK, c'est bien, mais comment tu t'y prends concrètement?
Oui, c'est important de redécouper finalement
en petites étapes, en petites actions. Ben, tu vois, je vais faire 10 000 euros, ok, c'est ambitieux peut-être ou pas. Je vais prendre mon téléphone et je vais faire 50 appels dans la journée, si tu es ok avec la prospection à froid. Mais, ou je vais rappeler des clients, tu vois. Mais comment je m'y prends? Et s'y tenir aussi, tu vois, se fixer des moments pour faire ces actions-là.
Ok. Et d'ailleurs, ça me fait penser, on en avait parlé avant d'enregistrer l'épisode. Tu sais, je t'avais dit que j'avais vu un post LinkedIn où tu avais partagé un peu une citation. Je t'avais dit, c'est trop bien, faut qu'on en parle. Du coup, j'ai envie d'en parler maintenant parce que tu as utilisé un thème qui va bien avec, si tu m'autorises. Donc, tu avais dit, vous n'avez pas d'anciens clients, vous n'avez que des clients.
Exactement.
Et ça, je trouve, ça rejoint ce que tu dis. Parfois, on peut créer des offres, on peut prospecter des nouveaux clients, mais on peut aussi relancer ce qu'on appelle nos anciens clients, mais finalement, qui peuvent être des clients à vie, puisqu'à partir du moment où ils ont fait appel à toi une fois, tu peux potentiellement leur reproposer une nouvelle prestation. Donc, moi, j'avais adoré cette citation que tu avais partagée sur LinkedIn.
Bah, écoute, bah déjà, merci. Et après, en réalité, on pense rarement à rappeler ses clients. Moi, ce que je recommande, c'est de déjà inclure dans sa stratégie, parce qu'on parle beaucoup d'acquisition, mais pas de fidélisation, et c'est de se dire, tous mes clients que j'ai fait de l'acquisition, ils sont venus, ils ont signé avec moi, ils m'ont fait confiance une fois, qu'est-ce que je mets en place dès le jour 1 dans ma tête pour déjà les garder et leur revendre par la suite. Et l'idée, c'est pas de leur revendre pour leur revendre, tu vois, c'est pas de dire je vais l'habiller pour l'hiver, et c'est de dire qu'est-ce que je peux lui proposer pour qu'il revienne chez moi.
Oui, et puis pour finalement continuer à t'aider. Parce que, et tu as raison de préciser qu'est-ce que je peux penser depuis le jour 1. Parce que bah, moi, enfin, je vais donner mon exemple, hein, j'ai pas été bonne élève là-dessus, même avec mon agence de com. Comme je suis assez proche de la plupart de mes clients, enfin, tu vois, j'ai pas forcément osé, moi, les relancer. Et j'ai eu un déclic il y a pas longtemps en me disant, mais en fait, je le fais pas pour moi, je le fais aussi pour eux.
Oui.
Parce que des clients que j'ai accompagnés il y a un an ou deux ans, mais en fait, ils ont certainement besoin. Tout ça, ça bouge, ils ont dû progresser et ils auraient besoin, ça pourrait les aider que je les accompagne. Donc, j'en ai recontacté certains et ils ont été contents que je les recontacte.
Mais absolument.
En fait. Donc, parfois, il faut s'enlever aussi, pareil, ce frein qu'on peut avoir. Et par contre, si on peut l'anticiper et le penser dès le départ dans un processus, c'est encore mieux. Quoi. Mais...
Dans la construction de ton offre.
Voilà.
Tu peux déjà réfléchir à ça dans la construction de ton offre. Mais je te rejoins totalement. C'est, en fait, il faut l'envisager comme, faut changer de posture. Tu n'es pas là pour, en mode, tu sais, needy, tu sais, en demande, mais tu es là pour aider ton client à faire encore mieux. Donc, tu vas le recontacter et lui dire, et discuter avec lui et identifier des besoins et dire, ah ben voilà, là, on a fait ça. Aujourd'hui, vous avez fait ça. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est ça. Et en règle générale, quand tu as bien bossé sur ton audience cible, donc je reviens au tout premier point, c'est des choses que tu arrives à anticiper. Tu sais que quand ils ont franchi une étape avec toi, en règle générale, l'étape numéro 2, c'est ça.
Oui.
Tu vas être plus facile. Ça va être plus facile de lui proposer. Et du coup, j'ai oublié de le dire, mais je t'en avais parlé, c'est que pour faire cette première étape de bien clarifier son audience cible, ben moi, ce que je proposais, c'était que tu puisses proposer à tes auditeurs notre guide sur comment bien définir sa cible, qui pourra, ben, j'espère, leur être utile pour clarifier cette première étape.
C'est important et j'allais y venir. En tout cas, je me le suis noté, je me suis dit, il ne faut pas qu'on oublie. Effectivement, mais tu vas en parler un petit peu plus parce que moi, je me confesse, je n'ai pas encore téléchargé ton guide, mais je vais le faire. Je trouve que c'est hyper intéressant en plus et puis ça me permettra de mieux voir aussi tout ce que tu fais. Mais vraiment, je vous invite, chers auditeurs et auditrices, à aller télécharger ce guide. Donc, je vous mettrai le lien en ressources de l'épisode. C'est hyper bien, en fait, un guide, je pense, qui va vraiment vous aider. Donc, Laurie, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ?
En fait, c'est un guide qui va vraiment permettre de clarifier ce persona. Donc, déjà, pourquoi, en fait, créer son persona va t'aider à augmenter tes performances marketing et commerciales, parce qu'en réalité, on l'a abordé aujourd'hui, c'est vraiment important. Et quand c'est clair, nos actions sont quand même beaucoup plus percutantes. Déjà, elles fonctionnent. Et comment, étape par étape, clarifier ce persona, notamment avec aussi toute la partie sur l'analyse, on va dire, la psychologie du profil d'acheteur. Alors, on n'est pas non plus dans du profiling, tu vois, comme on voit dans les séries télé, hein. Mais quand même, c'est qu'est-ce qu'il a dans la tête. Et dès qu'on fait appel, en fait, c'est surtout sur un travail sur quelles émotions il peut ressentir. Parce qu'aujourd'hui, les émotions, c'est un très gros levier quand on communique et qu'on vend. Et je pense que je te l'apprendrai pas parce que c'est quelque chose sur lequel toi aussi, tu dois t'appuyer, tu vois, quand tu fais des messages, quand tu fais des recommandations à tes clients. Donc, ça va être aussi, aider dans ce travail à identifier toute cette partie-là. Il y a des exemples concrets aussi dans ce guide. Donc, ça permet aussi de se projeter. Tu vois, moi, je trouve que montrer des exemples, bah, c'est encore une fois, ça fait partie de notre politique, c'est rendre accessible, c'est donner la méthode, OK, mais concrètement, à quoi ça ressemble quand on fait ce travail-là. Et en fait, on a fourni un autre exemple. Donc, tu vois, comme ça.
Bon, bah, en tout cas,
divulgue tous nos secrets.
Voilà, j'ai hâte d'aller le télécharger et ben, j'espère que vous allez vous aussi le télécharger. Avant de parler aussi de où est-ce qu'on peut te retrouver, je voulais te demander, est-ce que là, on a abordé tous les sujets que tu voulais aborder ? Est-ce que tout te semble OK ou il y a quelque chose que tu voulais dire en plus par rapport à l'épisode et le thème ?
Bah, écoute, je pense qu'on a quand même bien fait le tour. Ouais, je pense qu'on a bien fait le tour. Tu as posé pas mal de questions, donc ça c'est cool aussi. J'ai été ravie d'ailleurs de faire cet épisode avec toi, Natalia.
Bah, merci, moi aussi, j'étais contente de t'avoir avec moi. Mais bon, bah, très bien. Donc, en tout cas, au niveau du thème, je pense qu'on est pas mal. Donc, pour te retrouver, on a discuté de ça, mais je pense que le plus simple, c'est que tout le monde aille te suivre et se connecter éventuellement donc sur LinkedIn.
Oui, sur mon profil LinkedIn, pas
Laurie
de soucis.
Laurie Jacobi. Oui. Je le mettrai aussi dans la description de l'épisode. Ne vous trompez pas, vous pouvez aussi vous abonner au profil de ta sœur.
Vous pouvez
sœur,
vous connecter hein, mais... ou vous abonner au profil de Sandy. Je pense qu'elle ne mettra pas d'objection.
Voilà. Donc LinkedIn, tu es aussi sur Instagram, mais voilà, plus actif sur LinkedIn.
On est actif sur Instagram, mais le profil, c'est My Marketing Experience dans ces cas-là. Ouais. C'est le profil entreprise. On a un compte entreprise. Ouais. Et LinkedIn, c'est le plus sûr. Bon, les deux, hein, y a pas de souci. Bon,
allez partout.
Et sur My Marketing Podcast, où tu nous as connu également.
Très bien. Et également, effectivement, je voulais vous dire de ne pas hésiter à aller vous abonner au marketing de Laurie et Sandy. Donc, My Marketing Podcast. Moi, c'est un podcast que j'écoute régulièrement. En plus, là, donc il y a une nouvelle, il y a une série un peu spécial, la série Go 2024 où tu as interviewé
une série de fin d'année,
plein de gens aussi super. Et en dehors de cette série, enfin voilà, il y a plein de thèmes, vraiment allez-y. En plus, c'est vraiment complémentaire, je trouve, avec ce qu'on fait. Tu parles aussi de sujets autour de la prospection, enfin j'ai écouté plein d'épisodes, donc allez-y. Et bah, moi, c'est le moment, Laurie, où je te remercie encore une fois pour cet épisode. Et puis bah, je te dis à très vite.
Merci beaucoup, Natalia, et je te dis à très bientôt.
Et pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de vous abonner sur astuces.com, c'est important et ça me fait plaisir, surtout si vous me laissez des petites étoiles et un avis. Voilà, c'est hyper motivant pour nous, tu me comprends, hein, en tant que podcasteuse.
Ça aide à faire connaître ce super podcast.
Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant. Si vous avez déjà laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts, vous avez toute notre gratitude. Et si ce n'est pas encore le cas, j'espère que cet épisode vous a donné envie de le faire. À très bientôt !